On est de retour, il est 13h05. Honnêtement, j'attends Caroline Scott parce qu'elle est présentement en entretien avec Martin Lajeunesse qui lui avait donné rendez-vous il y a une demi-heure. Alors, il y a une demi-heure en retard, j'imagine qu'il a tenté de faire ses devoirs, mais c'est en lien avec l'entrevue que j'ai réalisée plus tôt là, dans cette émission avec Annie Beaulieu, cette dame qui a essentiellement, puis je vais vous résumer l'histoire, qui vit une situation difficile depuis l'été passé. En juillet, il y a eu un incendie qui a ravagé sa maison, un feu électrique. Sa maison a été détruite au complet, donc perte totale, allant jusqu'à la fondation. Et c'est important dans l'histoire. Elle a donc dû démolir toute la maison, incluant la fondation. Bon, on se retourne d'abord. Pendant ce temps-là, l'assureur lui paie un loyer, paye son loyer, si vous voulez, d'ici à la reconstruction de la maison. Mais là, elle a tout perdu, là. Ses vêtements, les couteaux, les fourchettes, tout. Elle se reloge avec son conjoint et son chat. Et ça coûte à l'assureur, son assureur, 3 200 $ par mois pour le logement. Puis évidemment, c'est tout meublé, etc., parce qu'elle a tout perdu. Bon, ça, ça dure depuis le mois de juillet. Elle décide de reconstruire une maison à l'endroit où... elle avait sa maison, jadis, avant l'incendie. Dépose des plans à la ville de Gatineau et c'est là que le fun commence. Alors, ce qu'elle me dit, alors c'est ce qu'elle me dit. Là. Moi, je n'ai pas vérifié ça. Elle me conte l'histoire à l'effet que elle fait la demande. Son entrepreneur dépose les plans pour la demande de permis. Et là, ça commence avec la ville qui demande à cette dame de lui céder gratuitement un bout de terrain, 18 mètres carrés. Alors, on lui demande donc de céder un bout de terrain. Elle ne sait pas trop pourquoi, mais sans compensation. Et on lui dit, si tu ne nous cèdes pas le terrain, ben, tu n'auras pas de permis de construction. Ça, c'est assez particulier. Moi, j'appelle ça du chantage. Si on veut exproprier la dame, ça, c'est quelque chose. Il y a un processus pour l'expropriation. Puis, dans le fond, il y a une valeur monétaire. Quand tu te fais privé d'une partie de terrain que tu as acheté. C'est ce qu'elle me dit qu'elle l'a acheté, qui est sa propriété. Bien, si tu te fais priver d'une partie de ta propriété parce que la ville en a besoin pour faire une piste cyclable, une rue, je ne sais pas, peu importe, habituellement, c'est un processus d'expropriation. Ce n'est pas le cas. Alors, on lui aurait dit, écoutez, là, si tu ne me cèdes pas X nombre de parcelles de terrain, mais tu n'auras pas ton permis de construction. Ça dure jusqu'en décembre. Finalement, en décembre, elle dit, OK. Je vous rappelle que les plans ont été déposés en octobre et la demande de permis donc en octobre. Entre octobre et décembre, le seul litige, c'est, avec la ville, c'est ce qu'elle nous explique, le seul litige, c'est que la ville veut une parcelle de terrain. On arrive en décembre, finalement la femme dit « OK, moi t'as le donné, le terrain. » Alors l'affaire est ketchup et... on lui émet son permis de construction. 24 heures plus tard, on l'avise qu'on le retire. On se ravise, puis on retire le permis de construction parce que là, on découvre que le niveau de son bâtiment, notamment de sa galerie, est 40 cm trop haut par rapport au quartier. Je fais tout de suite une parenthèse. Ce qu'on comprend de l'histoire, c'est que si la fondation avait été maintenue, donc avait survécu à l'incendie, elle aurait pu bénéficier d'un droit acquis sur la hauteur du bâtiment initial. Hauteur du bâtiment qui a servi de guide aux gens qui ont fait les plans pour la nouvelle maison. Mais parce qu'on a détruit la fondation, ben avec cela, c'est ce qu'elle m'explique. Il faut avoir un avocat là-dedans, je ne sais pas pour y voir clair, mais s'estompe le droit acquis. Elle doit donc obtempérer avec une nouvelle norme au niveau de la hauteur du bâtiment, hauteur notamment du salage. Bon, c'est drôle parce qu'en décembre, quand on lui explique ça, 24 heures après lui avoir donné un permis puis qu'on le retire, c'est drôle que quand on arrive à cette conclusion-là en décembre, on ne lui avait jamais parlé de ça depuis le dépôt des plans et la demande de permis en octobre. Alors que d'octobre à décembre, le seul enjeu était « ça nous prend le terrain ». La ville force la femme à lui céder, rétrocéder du terrain. Et là, on lui parle pas de la hauteur du bâtiment, c'est ce qu'elle m'explique. Puis rendu en décembre, lorsque le permis a été émis puis retiré, bien, ce qu'on comprend, c'est que finalement, il y a un autre enjeu, puis c'est l'enjeu de la hauteur du bâtiment de 40 cm. Et là, on dit à la femme, mais essentiellement, tu as deux choix. Ou bien tu refais tes plans pour respecter les normes de l'urbanisme, ou bien tu entres une demande, tu formules une demande, et tu payes les frais, formule une demande de dérogation mineure au service d'urbanisme. Elle décide de faire ça parce qu'elle trouve que c'est moins cher que de changer l'ensemble des plans qui représenterait quelques milliers de dollars parce que semble-t-il que la structure du bâtiment pourrait être, devra être modifiée si on change la hauteur. Donc, à partir de janvier, elle entre dans la spirale de la demande de dérogation mineure. C'est ce qu'elle m'explique. Et ça veut dire une dérogation mineure, là, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que la citoyenne, un citoyen dit, mais moi, je ne peux pas respecter, exemple, bien, il faut que je sois à 2 mètres de la ligne, mais j'aimerais ça être à 1,5 mètre, parce que je ne suis pas capable de le respecter pour telle raison. Fait que, je peux-tu avoir une dérogation aux règles? C'est pas gros, là, c'est pas une grosse affaire, mais je pourrais-tu? Comme elle, elle demande comme une quarantaine de centimètres de permission. Je vous rappelle que si la fondation est intacte, on n'aurait pas la discussion, puis le bâtiment serait 40 cm plus haut que la norme, puis ça serait tiguidou, selon ce qu'elle m'explique. Mais là, parce que la fondation est détruite, bien, le 40 cm, il n'est plus tiguidou, à moins qu'on passe par une dérogation mineure. Elle fait donc sa demande de dérogation mineure, ce qui va vouloir, ou ce qui implique donc, qu'elle doit faire cette demande au service d'urbanisme. Le comité consultatif d'urbanisme analysera la demande. Et, par la suite, il y aura une recommandation au conseil. C'est le conseil qui va statuer cela. Dans le cadre des dérogations mineures, il y a toujours possibilité que les citoyens autour s'objectent. Puis dans le cadre de la dérogation mineure, bien, dans le meilleur scénario, elle ne pourrait pas voir la livraison de son permis, le cas échéant où on permet la dérogation mineure, elle n'aurait pas son permis avant le mois d'avril. Le problème avec ça, c'est que l'assureur lui dit, « Moi, là, le mois d'avril, c'est la dernière fois que je te paye le loyer puis l'ensemble des frais de subsistance de 3 200 $, c'est fini, ça fait assez longtemps, ça fait depuis le mois de juillet que t'es dehors de cela, ça n'a pas de bon sens la lenteur avec la ville de Gatineau, puis moi là j'arrête de payer après avril. » Donc là, elle se ramasse devant une situation où est-ce que ça va coûter un bras pour quelques mois durant la construction, dans le meilleur des scénarios, et tout ça dans une situation aussi où elle continue à payer son hypothèque pour une maison qui est détruite. Bon, fait que c'est ça qui est ça. Alors, je lui pose la question, elle est dans le secteur Buckingham, son conseiller, c'est Martin Lajeunesse, conseiller d'Action Gatineau, a-t-elle eu recours à ses services? La réponse est oui. Est-ce qu'il l'a aidé? La réponse est non. Elle m'indique que la seule réponse qu'il lui a donnée, c'est trop compliqué ton affaire. Ça, c'est son côté de la médaille. Évidemment, Martin Lajeunesse ne veut pas venir en onde avec moi, hein, on le reconnaît, mais Caroline Scott lui a parlé, je crois. Caro?
Salut, Rock.
Allô?
Oui, je viens de finir de lui parler. Évidemment, on va pouvoir l'entendre dans nos prochains bulletins, là, mais essentiellement, le dossier est très complexe. Ça, j'enlève rien à Mme Beaulieu là-dessus et à M. Lajeunesse, considérant qu'il y a vraiment un enjeu au niveau de l'acquisition d'une parcelle de terrain. Parce que Mme Beaulieu te disait tantôt qu'elle va construire au même endroit. C'est le cas. Elle va construire sur le même terrain, mais a fait l'acquisition d'une autre parcelle de ce terrain-là pour déplacer un peu la fondation de sa maison.
Okay.
C'est ça l'enjeu. Le dossier est judiciarisé.
Okay.
Malheureusement, M. Lajeunesse n'a pas pu aller plus loin nécessairement pour m'expliquer les raisons pourquoi c'est judiciarisé, ce dossier-là. Mais ce qu'il me disait...
Mais qui poursuit qui, au moins, on sait tout ça?
Il n'y a pas de poursuite. C'est vraiment au niveau de l'acquisition de la parcelle de terrain parce qu'il y a un projet de logement qui s'en vient du côté de la rue Haute.
OK.
De 2 à 3 étages. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on a un constructeur qui veut bâtir de ce côté-là
ouais.
et qui avait déjà cette emprise-là. Puis ce que la ville veut faire, c'est ne pas nuire à l'emprise parce qu'elle va possiblement, à la suite de ce projet-là, qui va possiblement aller de l'avant d'ici 2021, mettre un passage piétonnier ou encore permettre un passage pour les services d'urgence. Parce que là, en ce moment, c'est un rond-point, donc un cul-de-sac, là, finalement. Et c'est vraiment à ce niveau-là, semble-t-il, qu'il y a des complications.
OK. Ça serait le fun qu'elle sache parce qu'elle ne sait pas ça.
Bien, visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'un des deux côtés, il y a quelqu'un qui ne se comprend pas.
C'est ça.
Mais là, au niveau de son implication, Martin Lajeunesse, il comprend. Il est empathique envers Mme Beaulieu. Il dit qu'il comprend son dossier, qu'effectivement, elle va perdre sa maison. Ben, en fait, elle a perdu sa maison et qu'elle va devoir se trouver un autre logement en avril. Il fait, lui, ce qu'il peut au niveau du conseil municipal. Au niveau de la dérogation mineure, il a été impliqué là-dedans. Mais pour ce qui est des conseils à donner pour pouvoir y aller de l'avant de son côté, il préférait référer les services, le directeur des services pour pouvoir y aller de l'avant. Mais là, vraiment, ce qui est complexe là-dedans, Rock, c'est vraiment l'aspect judiciarisé. Il n'y a pas de poursuite, comme je te dis, là, on va être clair là-dessus. Là, c'est vraiment pour que la personne qui a fait l'achat du terrain s'entende avec celui qui l'a vendu.
Mais la ville ne veut pas reprendre le terrain.
La ville a repris le terrain. La parcelle de terrain du 1$. Mais ce n'est pas du chantage,
ben,
selon
ça,
Martin.
La jeunesse. C'est M. La Jeunesse qui dit ça.
Ce n'est pas du chantage, c'est vraiment au niveau de la parcelle de terrain pour permettre la construction qui s'en vient d'ici 2021 pour que ça ne nuise pas à l'emprise municipale pour les services.
Okay.
C'est l'explication que j'ai eue. Je sais que c'est très complexe à comprendre, mais ça ressemble à ça essentiellement. C'est vraiment au niveau de l'acquisition du terrain. Là, semble que ça va se régler.
Ben, ça va se régler.
Ça va se régler rapidement, là, c'est en train de se régler.
Ben, il la force quand même à aller en dérogation mineure?
Selon lui, c'est la meilleure option pour lui permettre
de reconstruire sa maison plus rapidement. Pourquoi il ne savait pas ça au mois d'octobre?
Ça, c'est une bonne question.
Bon, c'est ça. Parce qu'elle, elle ne conteste pas même pas. Elle dit, OK, c'est réglé. Dans sa tête, c'était réglé l'histoire de la parcelle de terrain.
Finalement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas réglé parce qu'elle change quand même de terrain. Si elle avait rebâti à la même place, dans la même fondation où était son terrain, il
n'y
aurait pas eu de problème.
Okay.
Pas du tout. Mais là, semble qu'elle veut déplacer l'endroit où la fondation sera érigée.
Mais elle, quand on lui pose cette question-là, elle dit « Non, non, je rebâtis à la même place. »
Semble que ce n'est pas le cas.
Ouais,
alors, c'est la version d'un contre
d'un
autre.
Merci, Caro.
Je
te laisse aller parce que j'ai un commentaire à faire. Richard, je veux juste savoir, est-ce que j'ai du temps? Oui, c'est correct. Merci, Caroline. OK. Je veux prendre une minute, là. Parce que je veux vous expliquer le rôle d'un conseiller là-dedans. Que Martin Lajeunesse explique à Caro, qui est très empathique, ça, c'est facile. En anglais, là, ils disent « talk is cheap ». Ça, c'est facile. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il a parlé à ce madame-là. En tout cas, selon ce madame-là, Annie, il n'a pas parlé. Il a répondu que c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Habituellement, là, quand le monde a des troubles avec une ville, là, c'est parce que c'est compliqué. Puis habituellement, quand un élu est obligé de se mêler d'un dossier, là, parce que c'est compliqué. Le rôle d'un conseiller, il est à plusieurs facettes. Premièrement, il est là pour prendre les décisions d'orientation d'une ville au conseil. Il décide de la taxation. Il vote les budgets. Il décide des priorités de la ville par son vote. Ça, c'est le rôle au conseil municipal. Mais il a un rôle dans son quartier également. Dans son quartier, moi, je ne suis pas un de ceux qui pensent qu'un conseiller, un député, peu importe, là, doit défendre à tout prix le citoyen auprès de la machine. Je ne pense pas ça, moi. Il y a des fois, il faut que tu défendes le bon sens, puis les règles, puis la machine auprès du citoyen. Il y a des fois que c'est ça. Mais tu ne peux jamais faire l'économie quand tu es un conseiller. Surtout dans une situation difficile comme celle-là, de jaser avec la citoyenne. Tu peux pas. Puis tu peux pas juste dire c'est compliqué, m'en mêle pas. Le fait que ça soit judiciarisé, il n'y a pas de poursuite. Alors, je n'ai pas compris exactement. Probablement, c'est une histoire de notaire. J'ai l'impression, là, entre les bribes que Caro nous explique, qu'il y a peut-être eu un problème sur la transaction du terrain initialement. Peut-être. Je peux comprendre ça. Mais je ne sens pas. Puis madame. La femme en question, je n'ai pas senti qu'elle sentait qu'elle avait une écoute très active puis un support de la part du conseiller. C'est là le problème. Parce que autant qu'il y a un rôle à jouer autour de la table du conseil, autant qu'un conseiller a un rôle à jouer auprès des citoyens en disant « OK, ben je t'écoute, là, je vais essayer de voir c'est quoi ton affaire, tu sais, puis peux-tu t'aider? » Ça, son rôle. Si on souhaite, comme conseiller municipal, se mêler de dossiers qui sont jamais compliqués, puis qui opposent jamais les citoyens à la ville, t'es pas dans le bon travail. Parce que c'est rare que quelqu'un t'appelle pour l'aider quand ça va bien, puis que ton permis y est émis. Moi, mon expérience, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu un citoyen m'appeler quand j'étais à la ville pour me dire « Hey, tu peux-tu m'aider, Rock? Ça va super bien. » C'est pas ça souvent, là. C'est quand ça va mal qu'il t'appelle. C'est ça un petit peu ta job. Et non, t'as pas un rôle d'ombudsman. Ben non. Ça, c'est tout le débat du conseil actuel là, sur le rôle de l'ombudsman. C'est quoi la différence entre le rôle d'un conseiller, le rôle de l'administration, puis le rôle d'un ombudsman? Et toi, t'es là, pour défendre tes citoyens, pour représenter leurs intérêts, de façon collective, bien sûr, lorsque tu votes un budget, les priorités, le développement du quartier, tu les représentes de façon collective, mais quelquefois, tu dois les représenter de façon individuelle également, puis tu dois dire, ça a-tu du bon sens ou ça n'a pas de bon sens? Ici, là, il y a des grands pans là, qu'on a la misère à saisir. L'histoire du 40 cm et la dérogation mineure, comment se fait-il que ça arrive en janvier alors que la demande a été déposée en octobre? Comment ça se fait qu'il n'y a personne au service d'urbanisme qui a dit « Tu peux pas faire ça, t'es 40 cm trop haute. » Comment ça se fait? Là que j'entends, ils veulent l'accompagner là-dedans. Arrête-moi ça, t'es 3 mois en retard. Mais le 3 mois, là, si ça coûte 10 000 $ pour un autre 3 mois à l'hôtel parce que l'assureur ne paye plus, c'est qui va payer le 10 000? C'est pas Martin Lajeunesse. Comment ça se fait que les services ont dormi sur la switch en octobre, en novembre, en décembre? Comment ça se fait? Ça, c'est une question qu'il faut que le conseiller pose. Comment ça se fait que vous n'avez pas vu, madame, monsieur, le service d'urbanisme, qu'on était 40 cm trop haut? Puis comment ça se fait qu'on attend 3 mois pour lui dire? Ça, c'est autre chose que la cession du terrain, soit dit en passant. Ça n'a rien à faire non plus avec la question de la judiciarisation du dossier, si c'est une question là, de terrain. Alors, moi, je suis estomaqué d'entendre un conseiller dire « on ne m'en mêle pas, c'est trop compliqué ». De ne pas s'en mêler parce que c'est judiciarisé, très bien, mais une portion du dossier, pas toute. Puis avoir le culot de dire « oh, je l'accompagne là-dedans, tu vas aller plus vite ». Puis comment ça se fait que tu ne l'as pas accompagné au mois d'octobre? Et c'est la question. Fait qu'on sympathise avec ce madame-là, mais ça vous montre comment est-ce qu'il faut que tu t'occupes de tes affaires avec Gatineau, parce que tu peux pas se fier à la ville pour te donner un gros coup de main quand tu es dans le bas fond puis ça va pas bien. Après un incendie, garder tout le trouble qu'elle a. Puis le conseiller et la jeunesse a tellement de compassion que, un, il me parle pas, puis deux, il a pas parlé ben. Je pense pas. Et ce qui est ça, courte pause.